réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures ?
Jeudi 9 juin 2016 et c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'avoir choisi un autre jour est possible pour commencer votre journée. Dans un instant, on retrouve Alain Corbin qui, depuis lundi, nous parle du silence. Dans un instant, le 4e épisode. Et puis en deuxième partie, nous rendrons hommage à une femme que vous ne connaissez pas peut-être, Maïr Virtui, combattante, militante, universitaire, qui au Québec s'est beaucoup battue pour que la littérature féminine soit enseignée. Hajar Scharf, qui est québécoise elle aussi, lui consacre un documentaire autour de Maïr qu'on peut voir depuis hier dans quelques salles d'art et d'essai de France au Saint-André-des-Arts à Paris, par exemple. Mais pour commencer, Alain Corbin, écoutez le silence. Écoutez le silence en compagnie de l'historien Alain Corbin, 4e épisode, bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, le silence et la science. On a l'impression que ça va pas ensemble, malgré l'altération.
Ça, je n'ai pas étudié, hein, donc je suis pris un peu au dépourvu. Il est évident que si vous pensez à la science astronomique, disons, cosmologique, vient tout de suite à l'esprit la formule de Pascal, le silence de ces espaces infinis m'effraie. Bon.
On parle aussi du monde du silence, quand on parle des mers, des océans, et pour citer une phrase d'un film populaire, faisant un peu dans la culture populaire, dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Vous vous souvenez de ce film Alien?
Oui, il y a ça. Ben, il faudrait la distinguer, faire encore des histoires. Au 19e siècle, la Terre était effrayante, mystérieuse, inconnue. Il y avait des taches blanches, on n'était jamais allé au pôle, etc. Et donc, elle avait des formes de silence qui ne sont pas ce que nous appelons, nous, non plus la Terre, mais la planète. Vous l'avez remarqué. Parce que, aujourd'hui, la Terre était effrayante, épouvantable, terrifiante, mystérieuse au 19e. Et il y a une sorte de retournement, à notre époque, au fond, à l'idée que, vous parlez des sciences, que la Terre est menacée, au contraire. C'est l'homme qui la menace, c'est l'ère anthropocène, en quelque sorte. Et du même coup, les animaux étaient des fauves épouvantables au 19e siècle.
Aujourd'hui, les forêts en voie de disparition.
Les forêts étaient peuplées de monstres. Les hommes, il y en avait des terrifiants dans l'Afrique. Aujourd'hui, tout le monde est gentil. Il y a plus de forêts, les animaux sont tous gentils. Les forêts sont à préserver. Et les hommes sont tous gentils aussi. Enfin, je veux dire, vous voyez, il n'y a plus de races qui soient épouvantables. Bon, alors, du même coup, les silences, je ne sais pas comment dire, vous m'avez posé la question concernant la science, mais avec les nanotechnologies, avec la robotique, avec le, je ne sais pas moi, le numérique, il est évident qu'il ne peut plus y avoir dans le domaine de l'interrogation scientifique les mêmes formes de silence que lorsque la Terre était terrifiante. Alors qu'on la voit tous les jours, maintenant, là, se dessiner sur l'écran, la planète. Mais au 19e, on ne la connaissait pas. On n'avait jamais vu.
Vous voulez dire par là que le silence, c'est l'inconnu ?
Je pense que l'inconnu que véhiculait le mystère de la Terre au 19e siècle était plus terrifiant qu'une planète qu'on connaît mieux, qui est moins terrifiante. Bon, je n'ai pas étudié particulièrement cela, hein, mais dans le domaine de la... Alors, il y a un silence que j'ai oublié, hein, je dois dire, qui se réfère peut-être à la science, que j'ai découvert en quelque sorte, en partie depuis, c'est le silence au 19e siècle des aéronautes. Les gens qui, en ballon monté à plusieurs milliers de mètres, ont décrit leurs impressions. Je pense à Camille Flammarion dans son ouvrage intitulé « Voyages aériens ». Or, le plus frappant pour lui, c'était de nouvelles textures des silences. Des silences qu'il n'avait jamais éprouvés ni vus, enfin, des silences qu'il n'avait jamais perçus, je veux dire, sur la Terre. Après que les bruits de la Terre se soient estompés au moment de l'ascension, disparus, et ensuite, à très haute altitude, des bruits invraisemblables, totalement inconnus et totalement fascinants. Et ça, je crois qu'il aurait fallu que je consacre un chapitre à ces silences. Alors évidemment, l'avion va bouleverser cela, puisque ce n'est pas un univers de silence, mais ils montaient très haut, hein, ces scientifiques. À plusieurs milliers de mètres. Et donc, ces silences nocturnes aussi, à ces altitudes, ont été décrits avec une manière fascinante. Hein.
Très souvent, on associe le silence aux profondeurs de la mer, oui, à la aussi, montagne, hein. Au ciel.
Oui, alors, c'est la même chose. Est-ce que vous imaginez qu'au 19e siècle encore, on ne connaissait rien que des pellicules, c'est-à-dire que on n'avait pas pratiqué des forages comme aujourd'hui à des milliers de mètres pour la Terre. On n'avait pas, on ne descendait pas à 30 mètres, 40 mètres, pas plus dans l'eau. C'est assez étonnant. Et donc, à contrario, on était quand même monté jusque proche de la stratosphère en ballon. Mais aujourd'hui, on connaît les épaisseurs. On connaît les profondeurs de la mer. En 2005, j'avais, en compagnie d'autres, bien entendu, préparé une exposition sur la mer à la Bibliothèque nationale de France. Et il y avait là des gens qui ont raconté leur expérience à 6000, 7000, peut-être 8000 mètres de profondeur, devant des végétations, devant des animaux. Et je me souviens d'une de ces scientifiques qui disait, la première impression que j'ai eue, c'est de me dire, je vois ce que Platon aurait voulu toute sa vie pouvoir apercevoir. C'est très émouvant. On a quitté un petit peu, on est resté dans le domaine de la science, là, et des silences des profondeurs. Ça a commencé par Cousteau, son film, Le silence de la mer, quoi.
Mais, le monde du silence.
Le monde du silence, oui, c'était peut-être en 56, quelque chose comme ça. Mais ça va beaucoup plus loin maintenant, et les émotions par le silence des extrêmes profondeurs, enfin, la vision, parce que c'est des extrêmes profondeurs, c'est quelque chose qui personnellement me fascine.
Mais la technologie qui avance contre le silence, qui invente des appareils de plus en plus sophistiqués pour percevoir le moindre petit son.
Oui, il y a même des caissons. Mmh. Il y a des caissons dans lesquels on enferme en quelque sorte des volontaires. Et d'après ce que je sais, ce n'est pas totalement silencieux. C'est-à-dire que c'est une expérience sans doute assez affreuse, peut-être, que dans ces caissons où tous les bruits sont supprimés, où le silence est total, on entend ses propres bruits, c'est-à-dire les bruits de ses artères, le bruit du battement du cœur, qui sont les seuls qui restent et qui prennent donc une forte, forte dimension qui doit être assez impressionnante, sinon effrayante.
Mais ça, pourquoi ? Parce que ça rappelle que la mort, c'est le silence, c'est la mort. Et qu'un corps vivant... Il produit, il émet.
Ah, je ne sais pas.
Ouais. Quand vous analysez
alors, le
ça
silence de la mort, c'est encore autre chose. Bon, mais je veux dire, tous les poètes, tous les hommes, d'ailleurs, se sont interrogés sur ces multiples silences de la fin de vie, en quelque sorte.
Lorsque les premiers silences de la nuit et des derniers murmures du jour luttent sur les coteaux, au bord des fleuves, dans les bois et dans les vallées, lorsque les forêts se taisent par degrés, que pas une feuille, pas une mousse ne respire, que la lune est dans le ciel, que l'oreille de l'homme est attentive. Chateaubriand, évidemment.
Oui. Oui, là, nous sommes dans le sublime, hein, effectivement, dans les codes du sublime. Mais il y a quelque chose aujourd'hui qui est très présent. Il y a toute une série d'ouvrages qui sont parus sur l'apocalypse, la fin du monde, le cinéma, etc., etc. C'est-à-dire, ça, c'est le grand silence, puisque c'est le silence terminal, hein. Peut-être un simple murmure, si vous voulez. Et je crois que ça obsède aujourd'hui. À voir tout ce qui paraît, encore une fois, sur le thème apocalyptique, hein, c'est très fort. C'est pourquoi j'ai tenu à terminer ce livre par le poème de Le Comte de Lille qui essaie de s'imaginer ce que sera le silence quand la terre sera détruite. Le silence non plus de la terre, parce que il l'imagine comme n'étant plus que des restes imperceptibles, une sorte de sable, en quelque sorte, qui se dissout dans le cosmos. C'est très prémonitoire, hein. Entre parenthèses, je veux dire que on oublie un peu le Comte de Lille, hein, parce qu'il est un peu déprécié aujourd'hui, mais ce poème-là est très fort.
Merci Alain Corbin. On se retrouve demain pour le dernier épisode de notre série « Écoutez le silence ».
Merci.
Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Et mon invité ce matin est Ger Scharf, documentariste. Son film, Autour de Maïr, est sorti hier. On peut le voir dans quelques salles d'art et d'essai en France, notamment à Paris, au Saint-André-des-Arts. Bonjour, Ger Scharf.
Bonjour, Toufik.
Autour de Maïr est un documentaire qui dresse le portrait et la vie, les combats de Maïr Vertuis. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle ?
Maïr Vertuis est une Québécoise, canadienne, d'origine galloise, qui est venue au Canada depuis 59, donc depuis très longtemps. Et c'est la première femme qui a introduit les cours de littérature au féminin francophone, de littérature francophone au féminin à l'université canadienne. Donc, et elle est la cofondatrice de l'Institut Simone de Beauvoir et la première directrice de l'Institut Simone de Beauvoir au Canada, à Montréal.
C'est-à-dire que c'est la figure du féminisme au Québec.
Une des figures importantes au Québec. Et ce qui m'a intéressée dans le travail de Maïr, parce qu'elle s'est beaucoup intéressée, elle s'est surtout intéressée à la littérature, au féminin, et comme je vous l'ai dit, elle a introduit les premiers cours, et ce qui m'a aussi intéressée, c'est qu'elle soit galloise, donc la langue maternelle de Maïr Vertuis est l'anglais, mais c'est une francophone qui a toujours vécu en français et qui s'est vraiment battue et a ouvert les portes aux écrivaines pour qu'elles soient enseignées à l'université, qu'elles soient traduites, publiées. Et je sais qu'en France, maintenant, il y a ce grand débat par rapport à... Il n'y a pas d'auteur femme ou d'écrivaine femme au bac. Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit qu'au Canada et au Québec, par rapport à la littérature francophone au féminin, c'est quand même... on est un peu plus à l'avance, et c'est grâce à Maïr Vertuis que le combat a été mené avec d'autres femmes, bien sûr. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est ce que je vous disais, c'est qu'elle soit d'un background anglophone et qu'elle soit aussi une immigrante. Parce que Maïr, c'est aussi ce que vous avez vu dans le film, mais aussi c'est une des bâtisseuses dans l'histoire du Québec, une des bâtisseuses dans l'histoire du Québec de Montréal. Elle est reconnue en tant que telle. Donc ce qui m'intéressait, c'est aussi ce background immigrant et mettons intégré et qu'on participe dans la construction du savoir et du Québec et du Canada.
Alors, avant de parler de son combat universitaire, c'est-à-dire au sein de l'université pour enseigner des auteurs, puisqu'au début, elle disait, quand elle est arrivée à enseigner à Montréal, il y avait très peu d'auteurs femmes enseignées, mais avant ce débat, il y a une sympathie pour la cause du Québec, pour ce qui se passe de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, chez les francophones. Comment l'expliquer, Adjer Scharf, ce combat, cette identification à la partie francophone de la ville, et puis aussi sa position pour un Québec libre?
C'est que Maïr Vertuis, elle fait partie de ces personnes au Québec et au Canada qui a fait le pont entre anglophones et francophones. Et à un moment, je lui pose la question sur... elle a traversé la Maine. La Maine, c'est le boulevard Saint-Laurent. Mon premier film, d'ailleurs, était sur la Maine. Ça s'appelle Les Passeurs. Et c'est donc... C'est le boulevard Saint-Laurent, c'est là où viennent tous les immigrants. Donc, c'est ni anglophone, ni francophone. On les appelle les allophones. Et on dit que Maïr Vertuis a traversé la Maine, a traversé le boulevard Saint-Laurent pour unir anglophones et francophones. Étant anglophone, elle représente ça, elle représente cette unité. Et en même temps, elle a connu la Révolution tranquille, elle a connu René Lévesque, elle a connu le mouvement indépendantiste, et c'est vrai qu'à un moment, elle était avec René Lévesque, et elle était pour l'indépendance du Québec. Et moi, je lui pose la question, parce qu'elle est galloise, et que je sais que jusqu'à aujourd'hui, elle n'est plus indépendantiste aujourd'hui, mais elle est encore galloise, c'est-à-dire Maïr Vertuis, elle se fâche vraiment si vous lui dites qu'elle est anglaise. Elle est galloise. Et moi, quand j'ai commencé à faire le documentaire avec elle, je lui posais... Pour moi, je lui dis, mais ben, tu étais indépendantiste, québécoise... comme ça, souverainiste, parce que tu es galloise. Et dans le film, elle évoque cette professeure qui l'a fait vraiment souffrir et répéter le poème en anglais pour lui faire perdre son accent gallois. Donc, et parce qu'au Québec, on a cette problématique de l'accent. Dire que moi, je suis québécoise depuis très longtemps, mais on me pose encore la question si je suis touriste ou non, parce que c'est l'accent, c'est aussi un substitut identitaire. C'est-à-dire qu'on nous reconnaît par rapport à notre accent. Je dirais surtout les vieilles générations. C'est-à-dire qu'on reconnaît en classe par rapport à l'accent. C'est presque quelque chose d'identitaire. Et moi, je suis allée dans ce sens-là. Quand je lui pose la question, est-ce que toi, tu es souverainiste parce que tu es galloise et que ça te tient à cœur, elle dit non. Parce que c'est vrai qu'elle a connu le Québec effervescent, la Révolution tranquille, René Lévesque, là où quand il y avait ces poètes et ces écrivains et ces écrivaines qui étaient tous là à dire des poèmes, écrire des chansons, et pour elle, c'était vraiment la plus belle époque du Québec.
Et à travers donc Maïr Vertuis, c'est aussi de l'histoire du féminisme au Québec que retrace votre film Hajar Scharf, et c'est très important de voir la relation qu'a le Québec avec la France, c'est-à-dire reprendre le mouvement des féministes françaises, reprendre effectivement Simone de Beauvoir, mais avec des nuances, en apportant un regard critique, en essayant d'inventer quelque chose qui se rapprocherait aussi effectivement des pays anglo-saxons et des États-Unis. Donc elle a joué sur un équilibre entre reprendre un héritage qui vient de France et l'actualiser, diriez-vous ça, l'actualiser, le contextualiser à la réalité du Québec ?
Je ne dirais pas l'actualiser. Je pense que le féminisme au Québec est vraiment né du territoire québécois selon les référents culturels, sociaux, mais bien sûr qu'il y a eu des références, mettons, littéraires ou idéologiques, comme Simone de Beauvoir, comme d'autres femmes, parce que c'est en France, le MLF ou ce mouvement-là était plus fort, plus dense, et plus, c'était plus nombreuses, et c'était avant. Mais je pense que vraiment le mouvement féministe québécois, mais même pas, je dirais même pas canadien anglophone, je dirais québécois, est né vraiment de la réalité québécoise qui était religieuse. C'est-à-dire que l'enseignement était religieux. Les femmes n'avaient pas le droit d'avorter parce que le curé ne voulait pas. C'est-à-dire que la chape et l'impact et la charge religieuse était très très forte, catholique, était très très forte. Et à un moment, elle le dit, Lucie Lequin, une des intervenantes, c'est que les premières femmes qui étaient à l'université, qui ont eu accès à l'université, c'était des anglophones. C'était l'université McGill qui a permis les premières étudiantes. Et quand les femmes, donc l'université McGill, qui est la plus grande université, une des plus grandes anglophones, et qui est à Montréal, donc, et Montréal, on est au Québec. Et quand les femmes québécoises, donc francophones, voulaient aller à l'université McGill pour étudier, parce que c'était la seule université qui acceptait les femmes, on leur disait non, l'Église leur disait non, vous n'allez pas étudier chez les protestants. Donc il y a eu cette division aussi de sexe et religieuse.
La littérature a-t-elle servi de combat politique à Maïr Vertuis? Parce que on voit bien que elle reste essayiste, elle reste universitaire, elle reste une passeuse, parce que elle fait connaître des auteurs, elle défend des auteurs, elle décortique les auteurs, mais elle ne s'avance jamais à la manière d'une Simone de Beauvoir comme essayiste ou comme auteur, pour reprendre un peu tous les débats du film.
Oui, elle c'est pas une théoricienne. Et c'est pas une théoricienne, et c'est une essayiste. Elle a beaucoup écrit sur les femmes, et pas seulement québécoise. Elle a beaucoup écrit sur Assia Djebbar, par exemple, qui était son amie intime. Et Maïr Vertuis est l'une des spécialistes d'Assia Djebbar. Donc, mais elle, ce qui l'intéressait, elle reste quand même anglo-saxonne dans sa démarche pratique. Dire que Maïr, quand on lui demande quelque chose, elle analyse. C'est une vraie érudite, c'est quelqu'un qui lit, mais elle est très pratique. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la première qui a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut les publier, il faut les traduire, il y a ce côté pratique. Et je pense que ça vient un peu, peut-être qu'elle ne l'aimerait pas, mais c'est son côté anglo-saxon qui fasse qu'elle a fait des choses. Et beaucoup de c'est pas dans le film, mais beaucoup de ses amis me disent, mais Maïr, c'est une faiseuse. Et donc, il y a ce background de savoir, vraiment, c'est une savante par rapport à la littérature, et puis ce côté pragmatique qui a fait que cette alchimie a fait qu'elle ait fait l'œuvre que décrit le film.
Enfin, pour terminer, qui a eu cette belle idée d'utiliser les chansons d'Anne Sylvestre pour le film? C'est Maïr Vertuy, le sujet du film, donc, où c'est la réalisatrice et productrice et monteuse du film, c'est-à-dire vous, Adjer Scharf.
Je vous remercie, Toufik Hakem, de parler d'Anne Sylvestre. C'est moi. Et c'est moi qui ai eu l'idée. Et Anne Sylvestre, je ne la connaissais pas. Et je lui ai écrit, mais est-ce que je peux utiliser vos chansons? Elle me dit combien? Je lui dis 7. J'ai tout le film. Et elle me dit, écrivez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous allez parler de quoi? Et tout de suite, elle me dit, prenez. Et après, j'ai appris par son assistante qu'elle, il y a un moment, on parle d'un colloque que Maïr Vertuy a fait en 82, qui était le premier au monde sur les femmes et la recherche scientifique. Et j'ai appris par Maïr et par Anne Sylvestre et par d'autres personnes que Anne Sylvestre était à Montréal en 82 et elle est venue voir Maïr, elle a demandé de chanter pendant ce colloque. Donc, mais moi, je ne le savais pas parce qu'elle ne me l'a pas dit, mais je lui ai décrit les scènes, je lui ai dit un peu le synopsis du film, et elle m'a dit, oui, allez-y, prenez ce que vous voulez. Et là, Anne Sylvestre, vous avez vu, ses chansons sont quand même presque... très, très montrée, très écoutée dans le film, et elle n'illustre pas, elle semble vraiment une partie du scénario et une partie du propos du film.
Et vous, Eger Scharf, c'est quoi votre histoire? Vous êtes québécoise avec un accent? Ah, il n'est pas gallois votre accent, il vient d'où?
Il est tunisien alors.
C'est quoi votre histoire?
Moi je suis québécoise, je suis née en Tunisie, vécue en Tunisie, je suis tunisienne. Et québécoise d'origine tunisienne.
Ça fait combien de temps que vous vivez à Montréal?
Un peu plus de 20 ans maintenant.
Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir Montréal comme terre d'exil ou comme deuxième pays? Je ne sais pas d'ailleurs quel mot il faut que j'utilise pour ça. Comment êtes-vous arrivée à Montréal?
Parce que je voulais partir. Ouais. Je voulais partir, je voulais faire du cinéma, je voulais faire des choses. Et c'est vrai que moi, je suis venue, il n'y avait pas encore la révolution, donc c'était vraiment la dictature en Tunisie. Et j'ai écrit dans des journaux, ça ne me plaisait pas. C'est-à-dire que je ne trouvais pas mon compte, je ne trouvais pas mon épanouissement intellectuel.
Mais pourquoi, au lieu de choisir l'Italie, la France, l'Europe si proche, vous avez choisi Montréal?
J'ai vécu en France, mais Montréal, c'était. Je devais rester 6 mois et je suis restée parce que y a vraiment de l'espace. L'espace géographique, l'espace dans la tête des gens. Je pense que c'est moins saturé que la France. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile ou c'est moins saturé. C'est-à-dire que j'ai pu monter ma compagnie de production, j'ai pu faire des films. Je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi en France de faire ça.
Eger Scharf, donc, mon invitée ce matin, réalisatrice d'Autour de Maïr, documentaire que vous pouvez voir par exemple à Paris, au Saint-André-des-Arts, tous les jours sauf le mardi, à 13h. Merci Eger Scharf.
Merci beaucoup, Toufik.